Do you want to be a fighter?
RMC.
Here comes in a way that destructive, decisive power does it again.
Fighters Club.
I'm the baddest motherfucker on the planet.
Charles Chevalier.
I am the greatest.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver. C'est le RMC Fighter Club matinal avec Baba. Aujourd'hui pour débriefer l'UFC Freedom 250. Salut Baba, comment ça va?
Salut Charles, ça va? Bah écoute, comme toi, on a fait toute la nuit et on est. On a pas besoin de café là, je crois.
Non, il n'y a pas besoin de café. Enfin, moi non plus, c'est ce que tu m'as dit. On va dire ce qui s'est passé. Tu as bossé sur cette émission, tu étais en plateau avec Thomas Desson, Mickaël Lebout, plein d'invités évidemment. Et puis, moi j'étais en régie, j'ai bossé aussi sur cette émission. On s'est pas croisé de la soirée,
non,
du coup, on était séparés. Et là, dans les couloirs, on s'est presque évité en disant attends, viens, on en parle même pas. Comme ça, on se garde tous nos premiers sentiments pour en parler tout de suite dans le Fighter Club.
Yes.
Événement historique. Alors je sais même pas si tu vas sortir la brosse à reluire, la sulfateuse pour les allumer, ouais. Parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire sur cette UFC Freedom 250 qui était donc, vous le savez certainement, en direct de la Maison Blanche avec tout le monde avait mis les petits plats dans les grands, sauf Dana White qui avait même pas mis de cravate alors qu'il est arrivé à côté de Donald Trump qui lui était cravaté évidemment. Mais en tout cas, tout était fait pour qu'on s'en souvienne. Ouais. Cet événement va forcément marquer les esprits aussi parce que sportivement, eh bien, Cyril Gane a remporté la ceinture intérimaire de l'UFC chez les poids lourds 5 ans après l'avoir prise déjà une première fois contre Derrick Lewis. Cyril Gane bat cette fois-ci Poatan Alex Pereira et donc marque l'histoire en récupérant cette ceinture. On va parler de son... de sa prestation évidemment, de son futur aussi à Cyril Gane avec Ilia Topuria qui s'est fait battre par Justin Gaethje. Bref, on vous propose ce matin un débrief global de cette UFC Freedom 250. Baba, beaucoup de choses à dire. On va commencer, donc on l'a dit, hein, Cyril Gane qui forcément l'a emporté. On se fait un peu de global, d'abord le contexte, parce que c'est ça aussi qui a amené à tous ces combats, cette fight sur cette carte de l'UFC Freedom 250. Globalité, Baba, tu le dis, pas besoin de café pour rester réveillé, c'est que cet événement, il t'a plu ?
Bah écoute, il m'a plu, le dénouement m'a plu, clairement. Je pense que la victoire de Cyril Gane fait beaucoup pour ça, et la surprise plaisante de Justin Gaethje le fait aussi. Maintenant, si je fais un retour général, je dirais que bah, y avait beaucoup de mismatches, comme on dit, il y avait beaucoup de combats déséquilibrés, et clairement le favori a gagné à tous les coups quand il y avait un déséquilibre quand même prononcé, et ça laisse quand même un petit goût de bon, on a fait un show pour faire plaisir au président et on s'est pas trop pris la tête pour les match-up pour s'assurer qu'on ait du chaos du spectacle, et ça a fonctionné parce que 7 KO.
Ouais, ça a fonctionné, 7 KO sur 7 combats, c'est la première fois de l'histoire de l'UFC donc depuis 1993 que 100% des fights d'un événement terminent par des KO. Il n'y avait que 7 fights, généralement il y en a plus, donc ça favorisait aussi ça évidemment. Je vous fais les résultats rapidement. Diego Lopez qui bat Steve Garcia, Bonical qui bat Kyle Dokos, Mauricio Ruffi qui bat Michael Chandler, Josh Okid qui bat Derrick Lewis, Sean O'Malley qui bat Ayman Zahabi, Cyril Gane qui bat Alex Pereira et donc Justin Gaethje qui bat Ilia Topuria. C'est justement dans la globalité, on parlait de ce qui peut nous plaire, de ce qui peut nous déplaire. Si tu devais trouver des choses qui justement t'ont déplu sur ce que t'as vu, tu vois, sur le déroulé de la soirée, moi j'ai trouvé que c'était un peu long entre les combats aussi, parce que nous on bosse dessus, donc peut-être que à certains moments on se dit faudrait que ça rame un petit peu. Il y avait ces incertitudes au niveau de la météo. Finalement, nickel. Pas une goutte de pluie, on n'a rien vu. On avait nos reporters aussi sur place qui de temps en temps nous disaient « Ah là, il y a quelques gouttes de pluie qui commencent à arriver », mais finalement, ça n'a pas du tout dérangé l'événement. Est-ce qu'il y a des ombres au tableau sur ce que tu as vu de manière globale, Baba, sur cet événement ?
Bah écoute, non, alors oui, le pacing, c'était long, clairement, mais on s'en doutait. On en a parlé toute la semaine, toi et moi, avec toute la rédac, on savait que, et encore, je m'attendais à plus que ça, hein. Je m'attendais à des vidéos de dans tous les sens, pour l'armée, etc. Donc on en a eu pas tant que ça, mais c'était quand même relativement long. Maintenant, c'est vrai qu'on avait cette épée de Damoclès au-dessus de la tête toute la soirée, c'est ce qui m'a saoulé un peu, moi. On se demandait est-ce qu'il y aurait des pauses, est-ce qu'il y aurait pas de pauses, etc. Donc, au final, non. Donc, moi, comme je te dis, ce qui m'a dérangé, c'est que, les combats, pour la plupart, étaient déséquilibrés. Et puis après, les autres finishes qu'il y a eu, là, c'est à mettre au crédit des combattants qui ont réussi à terminer leur combat. Ça, c'est pas la même chose.
Ouais.
Mais voilà, il y a des combats, on va dire, qu'on aurait pu avoir une meilleure adversité.
J'ai discuté un peu avec Antoine et Taylor depuis au moment où ils étaient dans la cabine. C'est vrai qu'eux disaient, avant le combat, ils étaient un peu saoulés de l'événement. Tu vois, parce que problème de matching, parce que forcément, les oppositions n'étaient pas à la hauteur pour certains combattants. Quand on voit Derrick Lewis face à Josh Okitz,
bah là, franchement, c'est une caricature. Ouais.
Voilà, quand on voit aussi Michael Chandler contre Mauricio Rufy.
Mais on le savait.
On le savait.
On l'a tout dit. Ouais, on l'a tout dit, Charles. On l'a dit, toi et moi, on a fait trois, quatre épisodes de preview là-dessus. Ouais. À chaque fois qu'on l'a pu, on a pu dire, enfin, sur Michael Chandler, on m'a même dit qu'on était méchant, tu vois. C'était pas qu'on était méchant, c'est qu'on est lucide par rapport à la situation de Michael Chandler. Franchement, le pauvre, pour moi, il s'est fait humilier. Il s'est fait humilier dans ce combat-là. Josh Okitz et Derrick Lewis, je suis désolé, ils ont pas proposé un spectacle de top 10 des poids. C'est deux top 10 des poids lourds, Charles.
C'est la même catégorie que Cyril Gane.
Non, mais ouais.
Tout le monde le sait, mais je veux dire, quand on y pense, quand on se met ça en bouche,
c'est tu m'as mis une baffe, en fait.
Je te rappelle que Josh Okitz pourrait être le prochain.
Ouais. Je pense que même lui va demander à pas le faire tout de suite. Hein. Je pense qu'il y en a plein qui vont perdre le numéro de téléphone d'Hunter Campbell, là, tu vois. du côté de Manchester, des States, on va se calmer un petit peu sur le timing. Donc, bon, ouais, c'est dérangeant. Maintenant, écoute, comme je t'ai dit, je sors quand même avec un feeling satisfait parce que j'ai eu ce que je voulais avec Cyril. Et franchement, une très belle surprise avec Gaethje.
Ouais, très belle surprise avec Gaethje qui bat Topuria. Arrêt de l'arbitre. Alors, est-ce que c'est jet de l'éponge finalement? Enfin,
c'est le coin qui arrête.
Est-ce que voilà, c'est finalement le coin qui arrête? Et donc Gaethje qui est champion à l'UFC. Pour terminer rapidement sur la globalité, les entrées, j'ai trouvé ça super beau. Franchement, c'était bien.
Tu peux dire ce que tu veux.
En fait, il y avait. Et puis moi c'est la plus grosse émotion que j'ai eu de la soirée, c'est quand je voyais Cyril Gane avec les deux ceintures, parce que du coup il y avait la ceinture de champion et la ceinture spécialement pour la soirée UFC Freedom 250, mais juste tu voyais la Maison Blanche derrière, quoi. C'était pas une intelligence artificielle, c'était pas un front, c'était pas un décor, c'était la vraie Maison Blanche qui était derrière. Ça m'a mis les frissons.
Quoi qu'on en dise, on a dit ce qu'on avait à dire sur l'autre versant de cet event et tout ce que ça engendrait en termes de conflits d'intérêts et politiques, sportswashing, etc., tout ce que tu veux. Mais une fois que c'est dit, c'est vrai que l'image elle est incroyable, les entrées étaient incroyables, elles étaient épiques, je dirais. C'est un mot qui est très galvaudé aujourd'hui, mais là vraiment c'était épique, quoi. Tu pars du truc, tu traverses des endroits que tu sais qui sont quand même légendaires, et ça fait très beau, ça fait très solennel, donc ça c'est très réussi,
Très réussi avec le combat principal qui est carrément parti du bureau ovale. Gaethje d'abord, plutôt pour Ria, qui partent carrément du bureau de Donald Trump pour rejoindre les jardins de la Maison Blanche, et derrière. Et puis il y avait aussi tous ces plans qu'on a pu proposer sur RMC Sport avec ces plans de drone ou d'hélicoptère ou de grue,
avec la lumière
avec
et tout,
la fan zone qui était installée, tu voyais tout ça, et puis derrière tu voyais la Maison Blanche. C'était vraiment très très beau, même cette sorte d'arche qui était installée au-dessus de l'octogone, je trouve que visuellement ça rendait super bien. Le public finalement, ça criait USA tout le temps, il y avait quand même un peu d'ambiance, et donc c'était assez réussi. Les synthés des noms, les décors, les maillots, les trucs, tout était assez beau, je trouve. Moi, le spectacle, j'étais quand même un peu la bouche grande ouverte en me disant, mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font? Et je m'en fie aussi à Taylor, parce que du coup, il y avait une caméra aussi dans le post-commentaire d'Antoine et Taylor. Et Taylor aussi, qui vit ces émotions-là en tant que combattant, il était choqué. Il disait, mon sport, ça y est, il est à Maison Blanche, quoi. Il voyait les premières images de Trump qui arrive avec Dana White et tout, il disait, ça y est, mon sport est à la Maison Blanche. Et je sentais aussi son émotion en tant que combattant de se dire, mais c'est un truc.
C'est vraiment une dinguerie. Ça frappe au début, on se dit, en plus c'est comme il y avait toujours l'incertitude de la pluie, etc., et en fait quand l'event se lance en plateau, on est tous un peu ça y est, tu vois le truc qui part et c'est vraiment le cas. Et puis j'imagine aussi toi qui as vraiment un œil là-dessus au niveau prod, c'était vraiment fort.
Tout était magnifique. Il y a un ou deux petits loupés, notamment sur le combat de Cyril. C'est très anecdotique, mais je me suis dit, j'espère que ça va pas être un signe. Le nom qui part, ils affichent Justin Gaethje. Je sais pas si t'as fait gaffe.
Quand
Bruce Buffer le présente dans la cage, plutôt que de marquer Cyril Gane, et donc finalement il change, et ça n'arrive quasiment jamais à l'UFC. Donc je pense qu'il y a un mec qui est au pôle emploi américain.
C'est fini pour lui.
Je pense qu'il n'y a pas de préavis, il n'y a pas de truc, puis je pense qu'il va postuler ailleurs. Et donc, niveau prod, niveau lumière, tu vois, c'est des trucs hyper importants, mais tout était magnifique. Même à un moment, ça m'a frappé aussi quand il y a Topuria qui rentre, il y a une autre caméra qui le filme de côté pendant qu'il longe un long couloir, et ça rend très beau aussi. Quand Justin Gaethje sort d'un premier couloir, et là il croise deux lieutenants américains, deux marines, je sais plus, certains membres des forces américaines, et là il les salue. Enfin, tu vois, il y avait quand même aussi une solennité qui était super bien mise en scène et qui a été hyper bien rétribuée, je trouve, à l'écran, et qui en tout cas pour moi s'est ressenti, tu vois. Donc je ressors quand même avec, comme tu le dis, il y a des soirées où parfois on peut Tu vois, là, il n'y a eu que des KO tout le temps. On n'a pas eu vraiment le temps d'avoir un coup de fatigue, je trouve. Tu vois, même nous qui bossons dessus, parfois, c'est un peu long. Ouais. Tu vois, généralement, quand on fait les cartes préliminaires puis les cartes principales, on se le dit souvent, mais voilà, le quatrième combat de la carte préliminaire, ça commence à être un peu dur parfois parce qu'ils ne sont pas toujours hyper sûr, haletants, les combats. Là, j'étais à fond un peu tout le temps et la globalité m'a bien fait kiffer. J'ai l'impression que toi aussi. Donc déjà,
c'est cool.
Un truc, en tout cas, sur lequel on est d'accord. Donc, c'est plutôt popcorn que sulfateuse là, sur ce qui s'est passé.
Passer les écarts de niveau entre certains combattants dans les combats, bah, au moins, on s'en sort bien, nous, ceux qui regardent, parce qu'on a le finish spectaculaire qui va avec. Ouais. C'est mieux quand c'est comme ça que quand ça s'étire sur un combat, il y en a un qui tabasse l'autre et qu'il se passe rien, quoi. J'ai cru qu'on allait avoir ça avec Okit Lewis. À un moment, j'ai eu peur. Ouais. Et il a fini par le terminer, donc tant mieux.
Allez, on va sur Cyril Gane, donc champion intérimaire à l'UFC, 5 ans après sa première ceinture remportée face à Derek Lewis. Cette fois-ci, on s'en souvenait déjà de cette ceinture intérimaire contre Lewis. Ouais. Là, c'est face à Alex Pereira. Donc, quoi qu'il arrive, ça y est, on tient le combat le plus mythique de l'histoire du MMA français. C'est une question qu'on se pose souvent. On essaye de classer, on se dit celui-ci était-il plus important ? Il y avait John Jones. Là, maintenant, le combat référence pour notre sport dans notre pays, c'est celui-ci.
Cyril Gane, il vient de tabasser la plus grande star de l'UFC, la Mikao.
Il l'a tabassé.
Tabassé, Mikao, désolé. C'est pas pour manquer de respect, je suis un grand fan d'Alex Pereira, donc c'est juste l'euphorie qui fait dire ça. Mais franchement, il l'a dominé, il l'a terminé dans l'événement le plus exposé de l'histoire de ce sport. Donc il n'y a pas photo, c'est la plus grande victoire du MMA français.
Ce combat, quand il part, Baba, qu'est-ce que tu dis ? Ça se part. Alors moi, déjà sur l'entrée, Chama, je le trouve, comme d'habitude, hyper mystique.
Ouais.
Enfin, là, il y avait un truc encore en plus, peut-être, parce que tout était décuplé sur cet événement-là, mais je me suis dit, il y a un truc qui me fait peur. Ouais. Mais Cyril, comme à son habitude, très détendu, bon gamin. Enfin voilà, on connaît tous les superlatifs qu'on peut envoyer quand on parle de Cyril Gane. Ça part, il y a quand même deux, trois high kicks qui passent dans les deux premières minutes pour Alex Pereira. Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là ?
Non, je sais que Pereira, il est compétent dans ce qu'il fait. Donc évidemment que c'est une menace et qu'il sera dangereux. Mais j'étais serein, j'avais confiance en Cyril, qui défend bien, qui connaît ce genre de frappe, qui sait les voir arriver. Il s'est bien préparé, encore une fois, avec des très bons strikers. Donc ça montait les mains à chaque fois qu'il y avait le high kick. Ouais. C'est impressionnant. Quand Alex Pereira, il envoie une frappe puissante, t'as peur, c'est impressionnant. Mais Cyril, il fait son taf, il bloque, il a juste la distance. Ça fait que les high kicks d'après, c'est des retraits du buste, c'est plus des blocages. Donc là, tu sens qu'il est bien. Le jab fonctionne à merveille, rapidement, jab en position de gaucher en plus, ce qui lui permet de faire baisser les mains de Pereira et rapidement en plateau avec Mika, avec Cyril Diabaté notamment, avec Fabakary Diatta aussi qui était là, et Malik Sylla et Samba Sima. On se dit ça passe avec la droite, il y a quelque chose à faire de très intéressant au-dessus. Et en fait, il fait les bonnes choses, il fait tout bien, donc j'étais serein en arrivant dans le combat, en toute franchise, je l'ai dit publiquement, je l'ai dit dans cette émission et autrement. Et il me rend encore plus serein. Son début de combat, il me rend plus serein. Et franchement, plus le premier round y passe, et plus je me dis, c'est pas possible que Alex Alouyoubou. C'est pas possible.
Ouais, il y avait une des solutions qu'on avait envisagées. On s'était dit, pourquoi pas rentrer en lutte dès le début du combat pour faire peur. Finalement, c'est moitié du premier round. Il y a une première entrée en lutte, je crois. Ouais. Et fin du premier round, il y a une deuxième tentative d'entrée en lutte. Parce que, pour le coup, il y a deux bonnes défenses à ce moment-là de Pereira qui évite bien ses accrochages de Cyril.
Ouais, il défend bien, mais Cyril, il va pas à 100%. Il met pas tout l'engagement. C'est vraiment histoire de faire réfléchir. Tu vois que c'est vraiment des entrées pour dire attention, il y a la menace. Je vais continuer à te forcer à baisser les mains, en fait. Et à un moment, tu seras obligé de mettre la pression. En fait, il y a quelque chose, je pense, qu'ils ont très bien identifié chez Alex, c'est que Alex, quand il panique, quand il est mal à l'aise, quand le combat se passe pas comme lui voudrait, il accentue la pression, mais il accentue sa propension à faire des erreurs, à baisser les mains, à surengager. Et en fait, je pense qu'il l'attendait comme ça. Et le jab en contre qui lui place, c'est vraiment Alex qui rentre dans la distance, mais en baissant un petit peu trop les mains, en essayant de rentrer avec son crochet du bras avant, comme il le fait d'habitude, sauf que c'est beaucoup plus lent. Je sais pas si tu vois, de toute façon aussi, parce que c'est toi qui es aux manettes, donc c'est toi qui nous sort les ralentis, et tu vois que quand il prend le jab en compte, c'est parce que lui, il essaye de monter, mais c'est lent, c'est lent. Et on avait parlé de cette, ce problème de vitesse. Ouais. Et je pense qu'il s'exprime parfaitement dans cette action-là, en fait, tout simplement.
Ça, en fait, ça, c'est cette action-là qui résume aussi les difficultés de monter de poids. Il était plus lourd que Cyril à la pesée. Hein. Ouais. Donc,
un
kilo de plus, alors que ce n'est pas un vrai poids lourd. Cyril Gane, qui est un vrai poids lourd, était plus léger que le gars qui était encore en moins de 84 il y a quelques mois, il y a quelques années maintenant. C'est symptomatique. Voilà, c'est, en gros, ce qui devait se passer... est arrivé, c'est, tu résumerais aussi un peu le truc comme ça?
En tout cas, moi, ça s'est passé comme je l'attendais. D'ailleurs, j'ai gagné le promo de la rédac. Hein. J'avais mis Cyril Gane par KO dans la deuxième reprise. Ouais. Donc,
Ouais.
Il y a un écrit, je vais l'afficher
je sais
celui-là.
Je ne sais plus ce que j'ai marqué. Je vais la regarder. Il y a une feuille en rédac, on a tous parlé.
Je vais l'afficher. Donc, j'étais persuadé qu'il pouvait le faire. Je connais les forces et les faiblesses des deux. Je les observe depuis très longtemps. Pereira, j'ai suivi toute sa carrière. Donc, je savais qu'il y avait vraiment. Tout qui collait bien pour Cyril, à condition de ne pas faire d'erreur. Il a été parfaitement préparé pour, il n'a pas fait d'erreur.
La séquence du finish, c'est de la pure violence. Hein. C'est de la pure violence, Cyril, parce que c'est déjà menton qui tient de Pereira quand même, parce qu'il y a beaucoup de coups qui pleuvent. Ouais. Donc il y a une première séquence où on voit Pereira tomber, qui finalement réussit à tenir un peu sur les genoux, il s'accroche un peu à Cyril. Ouais. Cyril qui colle, qui essaye d'envoyer plein de coups, qui envoie d'ailleurs beaucoup de coups de coude aussi. Ouais, attention à ne pas les envoyer derrière la tête. Ouais. Voilà, mais il y en a certains un peu de dirty aussi.
Ça va venir gonfler son dossier.
Imagine, il l'arrête pour un truc comme ça après le high poke, etc. Voilà. Bon, ouais. Finalement, il arrive à retourner un petit peu Pereira qui se relève. Et là, c'est à ce moment-là qu'on voit bien au ralenti. Je crois que c'est la gauche qui vient terminer. Définitivement Alex Pereira avec l'arbitre qui vient dire stop parce que la violence, ça y est, c'est allé trop loin. Il n'y a pas de contestation de personne derrière.
Personne ne conteste, ni Alex, ni personne.
C'est le finish le plus violent que tu aies vu de Cyril Gane, tu crois? Est-ce que tu vois, par rapport à quand on pense à ces gros finishes, Spivak,
il était violent
aussi.
Il était vraiment très violent. Mais là, c'est Pereira, donc. L'image, elle va rester, quoi.
Pereira à la Maison Blanche.
Ouais, l'image, elle va rester vraiment. Le finish, il est très violent. De toute façon, Cyril, il a toujours ça. Hein, quand une fois qu'il a mis son adversaire en difficulté, ça a toujours été un peu chaotique, sa manière de venir terminer le combat. On s'est tous levés, je crois, à un moment sur le plateau. J'ai des flashs parce que le fou rire prend le dessus, mais on était tous. Calme, parce que là, c'est de la précision dont on a besoin. Si tu le touches, c'est mort, c'est fini en fait. Ouais. Continue à le toucher et ça va finir, et c'est ce qui s'est passé. Il s'est calmé un petit peu, il s'est redressé, et là, il touche sur trois frappes très nettes et il termine le combat. Donc Cyril, c'est tout le travail qu'il a fait toute l'année depuis la préparation qu'il a entamée pour combattre Aspinall jusqu'à aujourd'hui, ça a culminé. Et c'est beau de voir ça parce que le travail a payé. Et c'est un champion intérim des poids lourds qui est quand même assez terrifiant.
Il est terrifiant et ça enlève aussi beaucoup de possibilités de lui reprocher des choses maintenant. Parce que finalement, ce que les gens pouvaient lui reprocher à Cyril Gane, c'était face au meilleur, il plante. Ouais. Il n'est pas là, Ngannou, il n'a pas été là, contre John Jones, il n'a pas été là, contre Aspinall, il fait une erreur qui du coup, fait que le combat ne va pas au bout. Cette fois-ci, face à Alex Pereira, il assume comme il avait assumé avant, parce qu'il s'était présenté face à eux, il avait essayé de faire les meilleurs combats possibles. Cette fois-ci, il le bat. Ça va changer beaucoup de choses aussi dans ce qu'on va retenir de Cyril.
Ouais, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Ça change totalement la direction de sa carrière, son legacy, hein, ce dont les gens aiment tant parler. Là, tu avais déjà de très bons noms à son palmarès, mais t'ajoutes la star actuelle, la grande star, le mec le plus terrifiant de l'organisation, celui qui peut mettre KO tout le monde. Donc ouais, je vois peut-être des gens venir dire que finalement en fait c'était trop compliqué de monter en poids lourd pour Pereira, donc pour Gane elle était facile celle-là. Écoute, personne disait que ça allait être facile avant le combat, donc ce sera important que tout le monde garde le même discours. Il a fallu faire ce qu'il a fait, il a fallu faire le statement, il est parti le faire. Et comme pour tous les autres de cette soirée, même si certains, encore une fois, il y avait un écart de niveau, c'est leur victoire, ils ont été la chercher et avec brio, et c'est ce qu'a fait Cyril Gane. Ouais.
Importante victoire pour moi, parce que quand on retrace le parcours de Cyril Gane, finalement depuis septembre 2022, enfin on va dire depuis janvier 2022 quand il perd contre Francis Ngannou, en fait c'est entre guillemets ses seules victoires, c'est Tai Tuivasa, Sergei Spivak et Alexander Volkov, avec une victoire qui a été un peu contestée en plus de ça. Donc il en avait besoin, on savait que c'était un des meilleurs poids lourds de la planète parce que l'UFC ne le remettrait pas face à ses champions à chaque fois. Mais voilà, avoir Alex Pereira, ça y est, même si derrière il se passe des choses un peu moins bonnes, on pourra dire que quoi qu'il arrive, il a fait quelque chose qui marquera les esprits, qui vient tamponner un petit peu le vrai niveau qu'a Cyril Gane et qui vient donner de la légitimité à tout ça.
Exactement.
Voilà, je sais pas s'il était en quête de ça, mais en tout cas, je pense que c'est ce que les spécialistes et les grands publics pourront se dire en disant si elle gagne là cette fois-ci a été à la hauteur de l'événement. J'ai trouvé en plus, j'étais assez étonné, je pensais que, mais ça prouve aussi la froideur du gars hein, quand même, parce qu'on le voit hyper cool et tout, mais je pensais qu'il allait beaucoup plus exploser Joe au moment du
finish. Ah ouais, non,
finish.
Non, mais c'est...
Mais il, même pas, il s'est retourné vers Poatan, ouais. Il a pris des nouvelles, il a pas célébré, il a pas fait particulier, il est pas allé voir Donald Trump ni Dana White derrière, il a pas demandé de trucs particuliers, à part de dire, on va en parler deux secondes, je veux combattre en septembre à ouais. Paris, rendez-vous à ce moment-là, mais beaucoup d'humilité au moment de la célébration aussi.
Bah, beaucoup d'humilité, beaucoup d'intensité, il va, hein, il se met au sol, il a la tête dans les mains, entre soulagement et satisfaction peut-être du travail bien fait, mais moi j'aime ça ce qu'il a fait là, Cyril, ce comportement là, c'est dire j'ai fait mon travail, j'ai fait mon job en fait, j'ai fait mon job parce que je suis un champion, c'est moi le champion, lui dans sa tête c'est pas qu'il a fait un exploit, c'est qu'il a fait son travail, et je crois que c'est une belle image qu'il renvoie comme ça, et c'est un bel avertissement aussi qu'il envoie à Thomas Spinal et à tous les autres, ça va pas être facile d'aller chercher ce poids lourd là, il y en a plein ouais. aujourd'hui qui vont penser que le meilleur poids lourd actuel du MMA, c'est Cyril Gane.
Ouais, bah là, je pense que c'est très concret. Hein. De toute façon, vu qu'on n'a pas vu Thomas Spinal réellement dans les situations de combat depuis le hypo, il était dominé sur un round. Donc là, actuellement, je pense que ça fait pas vraiment de doute. On l'a dit, Cyril Gane, qui du coup, au micro de Joe Rogan, a dit rendez-vous septembre à Paris. Vous savez que c'est ça la suite. Est-ce que tu souhaites que ce soit ça la suite? C'est désormais le champion intérimaire qui peut-être va devenir champion disputed ouais. si on n'a pas de nouvelles de Thomas Spinal du côté de l'UFC. Est-ce que Cyril Gane à Paris, ça fait sens pour toi?
Bah écoute,
c'est Fight Night, hein, c'est pas un numéro 2.
Ouais, moi j'étais surpris qu'il dise ça. Je pensais vraiment pas qu'il voudrait combattre sur Paris. Tant mieux pour les fans français, tant mieux pour nous, tant mieux pour tout le monde. Écoute, pourquoi pas, Cyril Gane, Thomas Spinal, c'est parti. Comme l'a très bien dit Tom Desson en plateau tout à l'heure, on dit beaucoup si c'est pas un numéroté, il n'y a pas de ceinture. Ça, c'était à l'ère des pay-per-view. On n'est plus dans l'ère des pay-per-view, on est à l'ère d'un Paramount. Et Paramount peut faire des ceintures sur des Fight Night. Si Spinal est prêt. Let's go, Gane à Spinal pour la réunification des ceintures à Paris.
Et désormais, Cyril Gane est en position de demander des choses à l'UFC. C'est ça qui est
fort. Spinal, il le veut le combat. Ouais. Spinal, tu lui dis qu'on le fait en Alaska, il ira. Lui, il veut le combat, il veut absolument ça. Il veut se venger de toute façon, donc il le fera même en territoire ennemi.
Si jamais Spinal ne revient pas à l'UFC, parce qu'on sait que les relations contractuelles notamment sont très compliquées, humaines, enfin tout est compliqué entre Thomas Spinal et Dana White et l'UFC, les options, tu vois lesquelles? Alexander Volkov, pour l'instant, il est deuxième contender. Sergei Pavlovitch, troisième contender. Ça se passerait entre Cortés Acosta et Josh Okit, ouais. derrière, qui sont 4 et 5. Ouais. Josh Okit qui va monter un petit peu grâce à sa victoire, certainement. Ils vont peut-être le faire passer quoi, devant Pavlovitch, le faire passer contender numéro 3. Qu'est-ce que ça va libérer, tu vois? Qu'est-ce qu'on s'attend à voir? Si pas de Thomas Spinal, c'est Cortés Acosta ou Okit?
Bah, il ne faut pas éliminer Volkov, hein. Pas éliminer Volkov, même si il sort pas de paire super spectaculaire. Il est quand même très bien classé. Maintenant, Okit, on sait très bien qu'il a la hype, on sait très bien qu'il est poussé par l'organisation. Donc, il a fait un combat où visiblement il n'a pas pris trop de dégâts, voire pas du tout. Donc, c'est dans le domaine du possible. C'est dans le domaine du possible. Mais je les vois bien faire un Waldo Cortés Acosta contre Okit, justement. Et en espérant, encore une fois, qu'Aspinal combattra.
On a eu la chance d'avoir Cyril Gane au micro de Romain Pougeot aussi, juste après l'événement. Les quelques petites phrases que j'ai retenues, c'est « les gens oublient de dire que j'ai un gros mental ». C'est ce qu'il a dit à Romain. Il a dit « oui, on dit que je suis un athlète, parce que chez les poids lourds, je bouge bien, etc. Mais j'ai un très gros mental ». C'est bien de l'entendre aussi affirmer des choses comme ça. Ouais. Lui qui n'est pas forcément dans l'auto-congratulation, l'auto-satisfaction, là, de souligner que… Moi, j'avais eu une petite frayeur pendant la Fight Week quand il est sorti de la conférence de presse, je crois, et qu'il a dit là, on est quand même en train de vivre quelque chose de particulier. On était dans un cadre complètement fou, là où tous les présidents font leur discours d'intronisation, etc. On avait notre conférence de presse qui se déroulait ici. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il va pas être pris un petit peu par l'événement? C'était ma crainte, et il a prouvé que c'était pas le cas, et donc il a prouvé qu'il avait un mental énorme, Cyril.
Ouais, il a prouvé son mental. Il y a plus ces histoires-là, on peut plus le dire. De toute façon, on l'avait vu à Abu Dhabi, toi et moi, on était sur place, on avait déjà vu qu'en Fight Week, c'était plus le même, il était devenu très intense et plus ces choses-là. Là, encore plus, il a pas du tout été dérangé par la magnitude de l'événement. On a eu pas mal d'inside, pas mal de gens qu'on connaît qui étaient avec lui, qui le disaient. Yacine Zaouini qui me le disait beaucoup aussi. À chaque fois que je le vois, le gars est déterminé et serein. Donc ouais, il s'est pas laissé bouffer par l'événement et on l'a vu d'ailleurs, on l'a vu.
Ouais, Cyril Gane, champion intérimaire à l'UFC chez les poids lourds grâce à sa victoire Deuxième reprise contre Alex Poatan Pereira qui faisait son premier combat chez les lourds. Et je crois qu'il a dit qu'il voulait rester chez les lourds. Poatan,
il ne sait pas encore, il a dit qu'il va réfléchir. Il va réfléchir avec sa team. Il a dit ouais, c'est sûr que quand tu prends un beatdown comme ça d'un poids lourd, tu te dis waouh, peut-être que la TV c'est peut-être bien pour moi. Il peut refaire le poids. À voir. Moi, je pense qu'ils retenteront quand même un autre poids lourd, voir comment ça se passe. Et puis après, ouais.
Bah, maintenant que c'est perdu contre Cialgan, c'est beaucoup plus atteignable, hein, en fait. C'est tout ce qu'il y a derrière. Tu te dis qu'il peut se faire les dents contre des mecs qui sont bien en dessous, qui sont un peu derrière, ouais. Et prendre son temps, faire 2-3 combats et essayer de trouver une stabilité chez les poids lourds en comprenant un petit peu mieux. En faisant surtout comprendre à son corps et à ses réflexes à quel point c'est ça.
Travailler là à l'entraînement pendant plusieurs mois, à la salle, la muscu, tout ce qui va avec, la bonne nutrition pour faire de la masse musculaire, pas de la masse grasse, et retenter, ouais.
Ouais, voilà, c'était donc la victoire de Cyril Gann contre Alex Poatan Pereira. On va parler aussi du combat principal qui était dans mes échanges avec Taylor avant le combat principal. C'était non, mais il y a des trucs, c'est chaud, c'est pas assez au niveau, etc. Regarde les match-ups, on a même pas de combat de la soirée. Ouais. Et là, c'est ce qu'on se disait, on s'est vu ce qui arrive, ça risque de pas être un combat de la soirée, ça va encore être un KO, une performance of the night. Finalement, on a eu le combat de la soirée entre Ilia Topuria et Justin Gaethje, avec la victoire de Justin Gaethje qui est champion à l'UFC.
Exactement. Super victoire, super surprise. Moi, j'avais dit que s'il le faisait, ce serait une grande surprise, au même titre que Matera qui bat Georges Saint-Pierre, donc je le pense toujours. Gros coup de chapeau à lui. On voyait tous Topuria le mettre KO, l'exploser en un round ou deux. C'était pas passé loin. Dans la deuxième, il a été touché très durement au corps, mais Topuria, il s'est vider la jauge en essayant de le terminer, et en fait il avait pris trop de coups déjà à partir de la première, donc il avait déjà des problèmes, il était ouvert au niveau de l'œil, au niveau du nez. En fait il a été très poreux défensivement, Topuria, surprenamment, et Gaethje il a été très efficace
dès le début. En plus il prend des jabs au début, il a pas l'habitude de prendre, il y a un peu moins de mouvement, il y a moins de mobilité, et tu dis c'est vrai qu'on se dit déjà c'est un Topuria qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je crois que ça a été souligné en plateau aussi, Jai Herbert, il y avait peut-être eu quelques alertes.
C'est vrai, mais depuis, il avait plus jamais, il s'était plus jamais remis dans une position là. Là, simplement, il a abordé le combat en ne respectant pas du tout Justin, en respectant ni Justin, ni sa puissance de frappe, ni sa capacité à le toucher avec régularité, et surtout la résilience de Justin, parce que il réagit en champion dans la deuxième Ilia, il le touche durement, il est pas très loin de le terminer, et derrière Justin, lui, à partir du troisième, il se dit, ok, ah tu m'as pas fini, je suis encore debout. Ah, c'est à mon tour de jouer, et on va voir si toi tu peux tenir. Et à ce jeu-là, ben non, il n'a pas pu tenir Topuria en fait.
Et que cette confiance de Topuria de se dire mon menton il va tenir, ça j'en suis sûr. Et à un moment, si je déclenche ma boxe et que je vais sur mes enchaînements rapides comme je sais le faire, ça va suffire. Et cette confiance.
Je pense que vu qu'il avait vraiment décidé de pas vraiment défendre les frappes de Justin, ouais, j'imagine qu'il y a eu un petit excès de confiance. Moi, c'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Ouais
avec quand même des gros échanges dans la boîte, hein, fin de la première reprise. Là, on se dit, ça va tomber. Antoine et Taylor, ils disent là, on vous garantit que ça va pas aller jusqu'au bout des 5 rounds. Ça a quand même tenu 4 rounds entiers, donc assez impressionnant. Quasiment aucun kick, hein, sur tout le combat. Ouais. Ça s'est fait en anglaise, et c'est là que c'est d'autant plus surprenant, c'est que soit Justin Gaethje qui bat Topuria en anglaise en fait. Même s'il y a eu quelques phases de corps à corps avec Gaethje, d'ailleurs, étonnamment, on l'avait dit, pourquoi pas aller rechercher ce bagage de lutte qui est un peu son origine aussi à Gaethje, il y allait aussi de temps en temps.
Ouais, exactement, il mixait en fait, il rentrait, ça lui permet de ressortir en uppercut assez rapidement et de toucher, ressortir, donc il a bien géré avec son jab, encore une fois, il a bien mixé, il a bien boxé dans son style caractéristique, dégâts maximum infligés à Topuria, et ça donne une belle victoire, donc encore une fois, gros coup de chapeau à Justin Gaethje qui devient champion à part entière, avec son adversaire probablement le plus difficile et dans la plus grande exposition possible. Donc, c'était son moment à lui.
Ouais. Et puis, résilience extrême, hein, que ce soit dans son parcours global à Justin Gaethje, mais aussi dans le combat, parce que je m'étais fait quelques notes pendant le combat, justement, pour me souvenir des moments un peu clés à mon sens. Mais tu vois, je m'étais noté dans la deuxième reprise que pour Gaethje, ça devenait très compliqué, que c'était déjà trop dur. Ouais. Tu vois, j'ai mis le mot « c'est déjà trop dur » en disant « toute la suite va être un enfer pour lui ». Finalement, cette résilience aussi de se dire « je vais pouvoir revenir », il n'était pas sur le visage, il n'était pas vraiment touché. Physiquement, il a réussi à tenir. Il y a Topuria qui prend même une position montée un moment. On se dit comment il va faire pour sortir de là, Gaethje, et finalement, il s'en sort. Il y a aussi... une soumission. Peut-être à un moment, on se dit c'est peut-être une opportunité pour Topuria. Et c'est d'ailleurs sur cette phase au sol qu'il laisse beaucoup d'énergie, je crois, Topuria.
Ouais. Toute cette partie-là où il essaie de terminer en grand point, il prend la montée, puis après il essaie de partir sur un juji, puis il essaie de partir sur un triangle comme Khabib l'avait fait. Et en fait, ça passe pas et il perd toute son énergie. Mmh. Et là, ça devient très compliqué. Et en plus, il commence à avoir très mal aux yeux. Je serais pas surpris qu'on nous annonce qu'il ait une fracture du plancher orbital parce que des blessures comme celle-ci, c'est pas juste les yeux gonflés, ça m'a l'air bien compliqué. Donc, il avait plus de cardio. Et en plus, il était vraiment bien touché, bien blessé.
Ouais, milieu du troisième round, il y a un énorme enchaînement. Il y a une 2 là qui passe, qui envoie Topuria au sol. Finalement, il arrive à coller, il arrive à revenir un petit peu. Et d'ailleurs, il se met, il termine le torse contre le sol de la cage. Ouais. Et c'est à ce moment-là où Gaethje arrive pas. Peut-être qu'il aurait dû continuer à taper à ce moment-là. Il essaye d'aller chercher une prise, mais finalement, il n'y arrive pas, Gaethje. Et du coup, ça laisse Topuria revenir un petit peu. Phase assez surprenante aussi à la fin de la troisième reprise, où là, il y a le médecin qui vient et qui dit clairement stop. Ouais. Et là, on comprend qu'il y a des pressions qui viennent d'un peu partout en disant continue.
On a tous interprété pareil. Ouais.
Voilà, ah oui. Topuria, il dit non, s'il te plaît. Il lui dit, mais genre, comme un pote, il dit non, vas-y.
Il dit non, je vais t'arrêter. Allez. Et puis il parle au traducteur et quelqu'un qui vient lui parler et puis il dit non mais finalement c'est bon, tu peux continuer. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un au bord de cage qui a crié oh. Ouais. tu fais pas n'importe quoi là, tu laisses continuer, donc écoute.
Donc fin de la troisième reprise, il savait Gaethje s'il allait au bout de la quatrième reprise, c'était gagné.
C'était gagné.
Il fallait qu'il tienne encore 5 minutes et c'était gagné, c'est ce qu'il a fait.
Il a continué à dominer même.
Ouais, c'est sensation un peu inédite pour Topuria d'être aussi amoché. Là c'était
je pense qu'il va
pas aller en conférence de presse, il est même pas resté dans la cage au moment de l'interview. Il est sorti tout de suite. J'ai vu une image là justement qui passe sur Twitter où il y a même un de ces gars qui le tient un peu par l'épaule pour l'aider à descendre de la cage. Donc c'est vraiment très compliqué. Gaethje, donc on l'a dit, quasiment pas moché, et donc Justin Gaethje qui est champion à l'UFC. Il aura attendu, il sera passé par des phases incroyables dans sa carrière, et finalement là il reste sur une victoire contre Pimblett en 5 rounds. À la décision en 5 rounds, il tient 5 rounds contre un gars qui était en train de monter. Et puis là, il bat un mec qui était en zéro défaite, qui avait déjà updaté d'ailleurs ce matin son Instagram, comme il le fait, en mettant 18-0. Et finalement, c'est un 17-1 que ça va devenir pour Topuria. D'ailleurs, on a perdu les 0 de Chimaev et de Topuria en un mois.
Ouais, c'est assez intéressant comme période là actuellement. Ouais. Donc, gare aux invaincus et gare aux stars de l'UFC, parce que en ce moment, ce qui vous attend, c'est la guillotine.
Ouais, compliqué, très compliqué pour les stars de l'UFC, celui qui, du coup, maintient son statut de meilleur combattant actuel à l'UFC. Il s'appelle Islam Makhachev. Et lui, c'est une bonne période pour lui. Il est au chaud, il est tranquille. Il va falloir qu'il confirme derrière quand il va revenir. Mais en tout cas, lui, ça va être pour août, certainement, Islam Makhachev, qui revient sur le numéro T d'août. Mais en tout cas, c'est plutôt bien aussi pour lui, sa legacy, de pouvoir continuer à être tout là-haut, sachant que tous les autres sont en train de tomber. C'est vraiment bien ce qui lui arrive. La suite pour Justin Gaethje, rapidement. Je suis en train de me dire, Justin Gaethje a battu Ilia Topuria et il est très haut, il est très très haut maintenant dans l'histoire de l'UFC. On va le retenir, il y a encore 6 mois de ça, on l'aurait retenu peut-être comme un Dustin Poirier qui a loupé beaucoup d'occasions, qui a quand même été un mec hyper compliqué à prendre pour beaucoup de gars, mais là maintenant ça va être une saveur encore différente pour Gaethje.
Maintenant il est champion, il a gravé son nom à jamais dans l'histoire, son statut a changé, sa legacy vient de changer. Moi je sais très bien ce qu'il va vouloir faire et c'est une aubaine pour Max Holloway, mais si Max Holloway bat Connor, Gaethje va vouloir que Max Holloway. Il veut absolument venger cette défaite humiliante pour lui. Et donc il va attendre, il va regarder ce combat-là avec beaucoup d'attention dans un mois et il va essayer de prendre le vainqueur.
Ouais, c'est si ce
c'est
que Connor,
c'est encore mieux pour lui, pour son compte en banque.
C'est encore mieux
pour son compte en banque. Quoi qu'il arrive, Gaethje, il est gagnant à 100%.
Ouais, là l'UFC va certainement prier pour une victoire de Connor et monter un Gaethje Connor derrière. Parce que ça, c'est le combat à faire pour l'UFC et que finalement les fans auraient aussi envie de voir. Est-ce qu'il y a un autre combat sur lequel tu veux revenir rapidement? Je vous ai dit le résultat tout à l'heure en début de podcast avec Diego Lopez qui bat Steve Garcia, Bonical qui bat Kyle Dokos, Mauricio Ruffi qui bat Michael Chandler, avec Josh Okit qui bat Derek Lewis, avec Sean O'Malley, c'est que les coins rouges qu'on gagne à chaque fois là, hein. Sean O'Malley qui bat Ayman Zahabi, et puis donc le premier coin bleu qui gagne. D'ailleurs il était coin bleu alors qu'il était contender numéro 1 avec Alex Pereira qui arrivait dans la catégorie.
C'était un peu n'importe quoi.
Si elle gagne, qui bat Alex Pereira, et donc Justin Gaethje qui bat Ilia Topuria. Il y a un autre combat peut-être sur lequel tu voulais revenir avant.
Non, non, pas vraiment, parce que comme je t'ai dit, c'est des combats avec des écarts de niveau, même si je pensais que Steve Garcia pouvait le faire.
Ouais.
Mais pour le reste, non, non, ça, la logique a été respectée, j'ai pas grand chose à ajouter.
Voilà pour le débrief, Baba, de cette UFC Freedom 250 qui était en direct de la Maison Blanche. Un kiff hein, de faire ce débrief tout de suite à chaud.
J'aime vraiment bien.
Donc, j'aime bien le faire aussi. C'est cool qu'on nous laisse aussi techniquement le moyen de le faire parce que c'est tôt le matin. Là, c'était plus facile parce que c'est lundi matin.
Ouais, lundi, il y a du monde.
Dimanche matin, il y a un petit peu moins de monde, mais là, c'était.
Tout le monde arrive, donc c'est bien. C'est,
ouais, effectivement. Merci à Marie-Lou qui était avec nous pour enregistrer ce podcast du côté de la régie. Laissez vos commentaires sur vos premières impressions par rapport à tout ce qui s'est passé. En tout cas, nous, on va aller. Je crois que tu pars un petit peu en vacances là, Baba.
Mon taxi m'attend. Je pars tout de suite à l'aéroport.
Ah, tu vas à l'aéroport. Donc, je sais pas si tu vas dormir peut-être une heure ou deux dans l'avion.
Je dormirai sur mon transat quand on arrive là-bas.
Sur le transat, c'est une bonne chose. En pensant à Cyril Gann, donc qui est champion intérimaire à l'UFC chez les poids lourds. Événement pour le MMA français. Événement pour Cyril Gann. Et de très très belles choses qui vont arriver dans les mois qui viennent. Et on l'espère aussi, Benoît Saint-Denis, hein, qui va l'emporter le mois prochain.
Ça continue.
Et ça ferait peut-être le plus bel enchaînement de l'histoire du MMA français si en plus Benoît le fait sur la carte de Conor McGregor au mois de juillet. Merci Baba.
Merci à toi, Charles.
Et merci à vous toutes et tous qui nous écoutez dans le RMC Fighter Club. À très vite. Ciao.
Ciao.
RMC
Fighters Club.